Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider?
J'aimerais vendre mes actions.
Même activité fiévreuse à la Bourse de Paris.
La course économique, c'est comme les courses de cyclistes, c'est-à-dire qu'il y a des étapes.
Le Japon n'est officiellement plus en récession.
La production industrielle a progressé.
Premier trimestre est mesuré à 0,6%.
L'Arabie Saoudite, l'Irak et l'Iran, c'est 60% des réserves mondiales de pétrole de la planète.
Bonjour et bienvenue à l'antenne de Radio Spoutnik pour une nouvelle édition des chroniques de Jacques Sapir. À 2 semaines de l'expiration du délai de la formation d'un gouvernement, l'Espagne est toujours dans l'impasse. Le Parti Populaire, ou ce qu'on appelle le PP, formation sortante du Premier ministre actuel, M. Mariano Rajoy, n'a pas, à la suite des élections générales de décembre 2015, la majorité suffisante pour gouverner. Les 13% des voix obtenues par Podemos, le nouveau parti, issu du mouvement des indignés, en font un acteur incontournable du jeu politique espagnol. Or, son dirigeant, M. Pablo Iglesias, est tenu de négocier sa participation au gouvernement selon un mandat strict qui lui a été donné par la base du mouvement. Au sein de Podemos, du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, ou PSOE, tous les deux ont été en effet éclaboussés par de multiples scandales de corruption. Le leader socialiste, M. Pedro Sanchez, à première vue, semblait le mieux placé pour former un gouvernement, car le nombre de voix cumulées du Parti Socialiste Ouvrier et de Podemos, de formations qui sont normalement classées à gauche, surpasse largement le résultat électoral du Parti Populaire. Mais le PSOE, pendant les élections, a préféré s'allier avec le parti dit de centre-droit, Ciudadanos, lui aussi crédité de 13% des suffrages. Or, en Espagne, la majorité absolue aux deux chambres parlementaires est requise pour former un gouvernement. D'où l'absence de gouvernement dans le pays depuis bientôt 4 mois. Le Parti Populaire, le 10 avril dernier, a appelé de ses voeux à ce que M. Pedro Sanchez fasse place à un autre leader socialiste disposé à négocier la formation d'un gouvernement tripartite entre le Parti Populaire, le PSOE et Ciudadanos. Une telle anomalie en politique espagnole ne peut s'expliquer que par la crainte inspirée par Podemos à toute la classe politique institutionnelle. Le parti issu du mouvement citoyen d'occupation de la Plaza del Sol à Madrid parviendra-t-il à torpiller le système bipartite ancré en Espagne depuis la transition post-franquiste de 1978? C'est la question de cette semaine. Crise politique espagnole, va-t-on mettre en échec le bipartisme? Nous répondrons en première partie à cette question avec mes invités Christophe Barré et José Angel Calderón. Attention au démarrage imminent de la chronique et en vous souhaitant une bonne écoute sur Spoutnik France.
Nunca más una España sin su gente, nunca más una España sin sus pueblos, nunca más una España sin ternura. Vuelve la clase trabajadora que ejerciendo la huelga extendió los derechos sociales. Vuelven las luchas de todos aquellos y aquellas que levantaron la bandera de la libertad. Estamos orgullosos de todas esas mujeres, de todos esos hombres que soñaron que España sería un país mejor. Estáis en nuestro ADN y estamos orgullosas y orgullosos.
La crise politique espagnole est marquée aujourd'hui par l'émergence d'un nouveau mouvement, Podemos. Alors, ce nouveau mouvement apparaît, dans un sens, comme la traduction politique du mouvement des indignés qui s'était manifesté il y a quelques années et qui avait duré pendant plusieurs mois, pratiquement 2 ans en réalité, et qui avait occupé évidemment de nombreuses places, que ce soit à Madrid ou dans d'autres grandes villes espagnoles. On peut, de ce point de vue-là, établir un parallélisme entre ce mouvement et le mouvement que nous connaissons aujourd'hui en France avec Nuit Debout. Mais en réalité, on voit très vite que Podemos s'enracine dans d'autres formes de la vie politique espagnole. Il y a évidemment le poids de la guerre civile de 1936 à 1939. Pourquoi est-ce qu'il faut remonter aussi loin, semble-t-il, dans l'histoire? Eh bien, il y a une raison assez simple. Quand le franquisme a disparu, quand s'est produit ce qu'on appelle la fameuse transition post-franquiste, eh bien, les différents partis, que ce soit le Parti Populaire, c'est-à-dire le centre-droit, ou le Parti Socialiste, ont décidé d'un commun accord, en fait, de faire passer l'histoire de l'Espagne, l'histoire du XXe siècle de l'Espagne, par pertes et profits. Oui, mais voilà, cette histoire ne passe pas. Et il y a aujourd'hui, chez les petits-enfants, voire les arrière-petits-enfants, des gens qui ont vécu la guerre civile, il y a cette volonté de savoir, cette volonté de se réapproprier la mémoire de leur pays. Eh bien, la troisième logique, c'est la crise de légitimité très forte que connaît aujourd'hui la politique espagnole et que connaissent en particulier les deux principaux partis, le PSOE, donc pour la gauche, le Parti Socialiste, et le Parti Populaire, pour le centre-droit, qui l'un et l'autre ont été gangrénés par des scandales financiers retentissants et multiples. Quatrième source dans l'existence de Podemos, c'est le rapport, évidemment, à la politique d'austérité. Et le point est ici important. Il y a dans Podemos, à la fois au niveau de l'ensemble de ce parti, mais peut-être au niveau de certains de ses dirigeants, et c'est encore plus important, la compréhension que cette austérité, elle n'est pas simplement une décision politique prise à Madrid comme elle aurait pu être prise à Berlin, comme elle aurait pu être prise à Rome, comme elle aurait pu être prise à Athènes. Elle est en réalité la traduction immédiate de décisions qui ont été formulées dans un cadre non démocratique à Bruxelles. Et c'est là, en fait, que se pose l'un des principaux problèmes pour Podemos. Car Podemos, aujourd'hui, dit « Oh, nous voulons que l'Europe change, nous voulons que l'Europe devienne plus démocratique, nous voulons, en fait, une autre Europe. » Mais en même temps, il conteste radicalement l'existence de l'Europe actuelle, qu'en réalité, les politiques d'austérité, qui sont évidemment mises en œuvre par des gouvernements nationaux, sont l'équivalent des troupes d'occupation de l'Europe dans ces pays. Et donc, cela crée un rapport très particulier quant à la vie politique du pays et aussi quant au populisme. Et là, le grand mot est lâché. On voit bien, par exemple, qu'aujourd'hui, Podemos se réclame de la patrie espagnole. Alors bien sûr, ce que dit Podemos est assez différent de ce que pourrait dire un parti de droite, un parti nationaliste. Podemos va expliquer, la patrie, ce sont les gens. Nous n'avons pas besoin de drapeaux pour affirmer notre attachement à la patrie. Mais les militants de Podemos disent aussi, oui mais la patrie, c'est une culture politique commune. C'est bien cela qui fait notre identité. Notre identité, elle n'est pas religieuse, elle n'est pas inscrite dans le sang. Il y a bien la réclamation, la réappropriation de la souveraineté nationale qui constitue de plus en plus l'un des socles de Podemos. La crise politique espagnole, jusqu'à maintenant, a peu ému la presse et les partis politiques français. L'équipe des chroniques de Jacques Sapir y consacre une édition spéciale avec, pour invité, Christophe Barré, historien, attaché d'administration aux Archives nationales et auteur de l'essai Podemos pour une autre Europe, qui a été publié aux éditions du CERF, et José Ángel Calderón, membre du Cercle Podemos de Paris, professeur de sociologie à l'Université de Lille 1. Philippe et José, bonjour.
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 Ma première question va porter essentiellement sur où en est l'Espagne. L'Espagne est une sorte de laboratoire économique et politique vu de France. Les réformes radicales du marché du travail et le mouvement des indignés y sont intervenus 4 ans avant le projet de loi travail du gouvernement Valls et le mouvement Nuit Debout. Alors la première question, c'est à José que je la pose, où en est économiquement l'Espagne aujourd'hui?
Il y a un psychanalyste et philosophe argentin que j'aime beaucoup, qui s'appelle Miguel Benassayaga, qui a écrit que nous vivons une époque qui est marquée par des menaces, et qu'on est passé en fait d'une vision du futur comme promesse à une vision du futur plutôt comme menace. Il y a des éléments très matériels, très concrets, qui participent de cette sorte de fatalisme social dans lequel était installée l'Espagne. D'abord, bien sûr, il me semble, les politiques austéricides qui ont été appliquées ces dernières années en Espagne et ailleurs aussi en Europe par des gouvernements qui sont tant de gauche que de droite et qui ont eu des effets absolument néfastes sur les populations. Donc, je peux vous donner juste quelques exemples pour le cas espagnol, pour la première année seulement, dans sa première année d'application de la réforme du marché du travail en 2012, sur laquelle par ailleurs s'inspire aussi la loi El Khomri, le chômage est passé en Espagne de 23 à 26% et le numéro d'affiliés à la sécurité sociale s'est réduit d'un million de personnes. 91% des nouveaux contrats qui ont été signés en 2012 sont en CDD. Et l'Espagne est aujourd'hui, par ailleurs aussi, après la Grèce, le pays qui ou le plus a augmenté les taux de pauvreté. En Espagne, il y a actuellement 13,5 millions de personnes qui vivent en situation de risque d'exclusion sociale, c'est-à-dire presque 30% de la population. D'autres données encore qui sont absolument sanglantes. Entre 2006 et 2012, il y a 300 000 familles qui ont été expulsées de leur maison au profit des banques qui, par ailleurs, ont reçu entre 2008 et 2013 plus de 95 000 millions d'euros d'argent public. Et par ailleurs, 200 000 jeunes ont dû quitter aussi le pays pour aller chercher ailleurs, c'est-à-dire ils se sont exilés pour aller chercher ailleurs des meilleures conditions de vie.
Est-ce que ce n'est pas justement cet exil des jeunes, de ces 200 000 jeunes, qui a provoqué la baisse relative du nombre de chômeurs en Espagne, que l'on a mesuré depuis quelques mois?
Écoutez, absolument. D'abord, il y a effectivement des jeunes qui ont quitté, on dit en Espagne qu'il y a effectivement une fuite des cerveaux, c'est-à-dire une génération qui est très préparée, qui a dû effectivement quitter les pays pour aller chercher des meilleures conditions de travail et de vie ailleurs. Mais il faut aussi considérer qu'il y a de moins en moins des gens qui font la démarche d'aller chercher un emploi, parce que de toute manière, effectivement, ça sert à rien.
On va voir à partir de là quel est le contexte dans lequel s'est développé Podemos et comment cette formation populaire est-elle devenue aujourd'hui un parti qui est peut-être destiné à assurer des fonctions gouvernementales. Christophe.
Oui. Podemos, en fait, c'est la confluence de beaucoup de mouvements. Hein. On parlait de beaucoup, on a beaucoup parlé des idéologues de Podemos. Il y a, on va y trouver des gens qui sont inspirés du péronisme, d'autres du populisme, selon Ernest Laclau en Argentine. Mais on va y trouver aussi simplement de modestes indignés, comme notre ami José. On va y trouver aussi des catholiques de banlieue. Podemos recrute beaucoup dans les grandes villes, dans les banlieues industrielles sinistrées par cette crise, qui effectivement apparaît comme un drame. C'est la génération la mieux formée peut-être de toute l'histoire de l'Espagne qui a aujourd'hui à prendre la route de l'exil. Et là, on comprendra ainsi d'autant mieux que Podemos fasse ses meilleurs scores justement dans les populations de l'exil à l'étranger.
José, je voulais vous demander, en tant que sociologue, quelle est la lecture que vous avez un petit peu de la base sociale de Podemos et de la manière dont les différentes catégories sociales de l'Espagne ont été touchées par cette crise économique et sociale?
Alors, il me semble qu'il y a quelque chose qui est assez essentiel et qui n'a pas été dit, et c'est que Podemos, il est d'abord aussi dans un contexte de crise économique, mais aussi de crise politique très forte, c'est-à-dire une crise de confiance totale dans les institutions et dans la classe politique. Donc la corruption est devenue absolument insupportable, tout aussi comme le bipartisme qui était jusque-là la clé des voûtes du régime du 78, c'est-à-dire ce système dans lequel la gauche et la droite s'alternent au pouvoir et qui consiste en réalité en une fermeture du monde des possibles. Et Podemos, je dis que Podemos il est né de ce point de vue-là, enfin, pas envie d'expliquer Podemos à partir des catégories qui serait préétablie ou qui viendrait d'une analyse qu'on pourrait porter sur ces mouvements ou ces partis mouvements à partir des sciences sociales, mais à partir de la mobilisation elle-même. C'est-à-dire Podemos, il est né donc de ces mouvements sociaux, du mouvement des indignés, qui a découvert en fait un espace politique énorme entre d'une part l'austérité et d'autre part ces fatalismes dont je parlais et qui en Europe, par ailleurs aussi, a pris des formes comme la xénophobie ou comme les replis identitaires. En fait, c'est cet espace-là qui a été rempli par des gens très pluriels, très divers. C'est l'espace qu'on appelle, nous, l'espace du si se puede, c'est-à-dire l'espace du yes we can, l'espace du oui on peut.
La prise de conscience était d'autant plus forte qu'en 2011, il y a eu deux événements. Il y a eu le mouvement des indignés au mois de mai et puis la victoire du Parti populaire à l'automne. Donc deux événements presque incompatibles, une grande mobilisation populaire, sociale, qui a eu un grand écho de sympathie dans l'ensemble du pays, et puis quand même la droite la plus ultralibérale qui gagne les élections. Ça, c'est vraiment ce qui a fait réagir le petit groupe d'universitaires qui, lui, va choisir aussi ce qu'on appelle à gauche la forme parti, c'est-à-dire de s'engager et de faire le pari de jouer des institutions. Mais c'est ça le pari révolutionnaire en quelque sorte de Podemos.
Oui, mais ça d'une certaine manière on peut le comprendre parce que on voit très bien quand on a un parti qui est au pouvoir et qui est très contesté et qui est très atteint par toute une série de scandales comme le scandale de la corruption. Effectivement, on sait que ces scandales étaient très importants en Espagne. Il s'effondre et de fait, je dirais mécaniquement dans le système électoral, c'est l'autre parti qui va monter. Et donc, c'est bien là la question essentielle qui est posée. Il faut, si on ne veut pas être constamment devant une alternance gauche-droite, droite-gauche, gauche-droite, etc., il va falloir introduire un nouveau parti. Et d'ailleurs, le point intéressant, c'est que on assiste exactement au même phénomène en Italie, avec le Movimento Cinque Stelle, et c'est un petit peu à ce type de mouvement qu'a fait référence la montée de Syriza en Grèce. José Angel, est-ce qu'il est indispensable, du point de vue de Podemos, de discuter avec le Parti Socialiste espagnol, pourquoi pas un gouvernement avec la gauche unie, ce qu'on appelle Izquierda Unida, et d'autres forces de la gauche radicale?
Alors tout à fait. Effectivement, il faut dire que l'Espagne, maintenant, elle est sans gouvernement, et d'après les nouvelles que j'ai eues, les informations que j'ai eues aujourd'hui, normalement, il devrait y avoir des élections, une répétition des élections, au mois de juin. Alors nous, depuis les premiers jours, nous nous sommes adressés, on va le dire comme ça, à l'âme progressiste du Parti Socialiste, en lui disant, mettons-nous d'accord pour un gouvernement du changement qui devrait nous permettre de virer Rajoy, mais non seulement Rajoy, mais aussi de virer ses politiques austéricides. Nous avons fait effectivement des concessions, mais c'est plutôt l'âme, comment dire, austéritaire du Parti Socialiste, qui nous a répondu non. Et donc, effectivement, les partis socialistes ont préféré pactiser avec Ciudadanos, qui est cette omnipolitique.
Podemos de droite, on dit.
C'est un véritable produit marketing, en fait, et par lequel le régime cherche à se renouveler sans que rien ne change.
On compare son dirigeant au Macron.
Voilà, c'est ça, j'allais dire ça.
C'est comme l'En Marche, quoi.
Voilà. C'est un peu comme les mouvements En Marche lancés par Macron, effectivement. Et nous pensons, effectivement, que ces pactes entre le PS espagnol et Ciudadanos préfigurent un gouvernement à l'allemande après les élections du mois de juin, que c'est qui est désiré par tout l'établissement politique et économique espagnol. Alors, avec la gauche unie, effectivement, nous avons une différence essentielle, il nous semble que la clé de la construction d'une majorité sociale en Espagne passe aujourd'hui plutôt par notre capacité à être en mesure d'agir à l'intérieur, mais aussi en dehors des limites de la gauche. C'est-à-dire, nous pensons que la radicalité politique n'est pas à trouver, comme souvent a fait la gauche, dans la radicalité des postulats de départ, mais plutôt dans la capacité à faire avancer les positions des personnes face aux positions des puissants.
Alors, simplement,
il me semble qu'il faut sortir la politique du jeu identitaire.
Qu'est-ce que vous entendez par faire appel à quelque chose qui va au-delà de la gauche? Est-ce que cette attitude, elle n'est pas d'une certaine manière à rapprocher, vous savez, de ce fameux discours de 1935 qu'avait tenu le dirigeant du Parti communiste français, Maurice Thorez, quand il avait dit « catholique, militant des croix de feu, je te tends la main », etc. Comment alors, se situe ça?
Effectivement, j'ai dit que cet espace qui est vide, qui est entre l'austérité et la repli identitaire, c'est un espace qu'on appelle l'espace de si se puede, oui on peut. C'est un espace,
qu'il faut
remplir des sens nouveaux. Et par exemple, je vais être très concret. Et Podemos, et cela a froissé pas mal la gauche traditionnelle, a cherché par exemple à résignifier positivement la notion de patrie.
Oui.
Alors, la notion de patrie était jusque-là, effectivement, le patrimoine de la droite. Être espagnol, de notre point de vue, c'est bien plus qu'à respecter la loi. Et pour nous, être espagnol, c'est un socle culturel commun, commencer par là. Or, c'est la droite qui s'attaque aujourd'hui, et par ses réformes néfastes des programmes d'études, par ailleurs, en France, c'est pas exactement de la même manière, à ces socles communs. Être espagnol aussi pour nous, c'est aussi accepter que nous avons un passé commun, un passé qui est fait de violence, un passé qui est fait effectivement de haine, mais un passé qui n'a pas pu encore être dit dans la place publique espagnole. Vous savez, l'Espagne, c'est le pays après le Cambodge où il y a le plus de morts toujours dans des fosses communes qui n'ont toujours pas été des terres, le deuxième pays au monde. Être espagnol, de notre point de vue aussi, c'est enfin accepter que nous sommes une patrie des patries et qu'il faut enfin reconnaître que l'Espagne est un pays plurinational.
Christophe, je voudrais vous demander, vous qui êtes quand même un spécialiste de Podemos, qui avait écrit un livre important sur ce parti, comment vous voyez justement ce discours de la patrie qui est en train de se constituer chez Podemos et comment peut justement se combiner à la fois ce potentiel de contestation sociale, mais aussi cette espèce de rappel ou d'appel à une forme d'identité nationale?
Alors, faut bien comprendre que Pablo Iglesias, malgré les bons accords qui existent, les bonnes relations qui existent entre eux, je le dis pour provoquer un peu, pour susciter le débat, c'est quand même l'anti-Mélenchon. C'est-à-dire que Podemos, effectivement, n'est pas né dans le cadre d'alliance ou dans la perspective d'alliance électorale à gauche, par exemple, comme le ramène un peu aujourd'hui le jeu parlementaire. Et c'est peut-être pour ça que Podemos va aller jusqu'à à de nouvelles élections, parce que ça lui permettrait de passer enfin en tête. Il a joué son irruption, comme disent les théoriciens de Podemos, ils ont joué cette irruption plébéienne sur la scène politique, effectivement se référant à la patrie, en l'abordant un petit peu à la mode latino-américaine. C'est beaucoup plus acceptable pour les gens de gauche de défendre la patrie quand on est à Cuba, quand il y a le grand voisin américain qui effraie, qui colonialise un petit peu encore. Cette patrie, c'est les gens. Hein. Pablo Iglesias le dit très bien, c'est les gens. On n'a pas de drapeau. Dans mon livre, c'est vrai que je parle d'un souverainisme sans drapeau. C'est un autre nom qu'on lit encore dans les discours de Podemos et de ses responsables. Souveraineté, démocratie. C'est l'objectif final, c'est de radicaliser la démocratie. Alors il y a un processus à long terme qu'ils appellent processus constituant, qui est celui de l'idéal de marxistes authentiques, hein, qui est de la société autorégulée. Donc il y a des sociologues qui essaient de réfléchir à ça, qui se demandent comment faire avec les réseaux sociaux, avec les mobilisations auxquelles on assiste, comme celle à laquelle on assiste en France aussi. Il y a l'objectif de long terme, et puis il y a la mobilisation du peuple, effectivement, contre les élites. Mais c'est un peuple qui est mobilisé en jonction avec le mouvement social. C'est pas le populisme identitaire de l'extrême droite. C'est un populisme de gauche, comme le réclamait récemment en France Chantal Mouffe, qui est l'une des inspiratrices de Podemos.
Alors, pourquoi Podemos insiste-t-il sur un référendum d'autodétermination en Catalogne et dans d'autres régions? Est-ce que vous pensez que l'Espagne serait viable économiquement sans la Catalogne?
Alors, en Catalogne, il faut partir de cette base-là. En Catalogne, il y a eu ces dernières années une véritable rébellion civique qui est d'un ordre similaire en fait à celle qui s'est produite dans le reste de l'État espagnol et qu'on appelait les mouvements des Sandinistes, mais qui a pris une forme un peu différente. Vous savez, il y a 2 millions de personnes qui sont sorties dans les rues de Barcelone le 11 septembre dernier, dans un pays de 7 millions d'habitants. C'est comme si 20 millions de Français inonder demain les rues de Paris. Alors, nous disons effectivement aux Catalans et que nous sommes effectivement en faveur du droit ou d'un droit à décider, mais que nous voulons décider aussi de tout. Et c'est-à-dire, nous disons aux Catalans que nous voulons une patrie plurinationale et souveraine. C'est-à-dire, avec ce discours, nous avons été la première force politique en Catalogne, avec nos alliés, et bien sûr, notamment la maire de Barcelone à Ada Colau, mais on a été aussi, à Podemos, on a été la première force politique
législative
au Pays Basque. C'est-à-dire, nous avons un discours, c'est-à-dire, effectivement, nous sommes pour les droits à décider de tout, mais nous ferons campagne, effectivement, pour que la Catalogne, elle reste en Espagne. Comme l'a dit Pablo Iglesias, nous voulons séduire les Catalans.
Bien, bah écoutez, José Angel, Christophe, merci beaucoup.
Merci.
Merci.
C'était Christophe Barré et José Calderón pour un débat avec Jacques Sapir sur la crise politique espagnole. Restez attentifs, chères auditrices et chers auditeurs, nous continuons notre programme.
Moi, je m'appelle Simona Levy et je suis fondatrice d'un groupe qui s'appelle XNet, qui existe depuis 2008. Organisation XMED, je crois, nous travaillons sur les deux fronts. Nous sommes lanceurs d'alerte, mais aussi nous ouvrons des cas de justice. La dénonciation de la corruption se fait dans 90% des cas par des citoyens. Des fois, c'est des citoyens qui ont une volonté activiste. D'autres fois, c'est des citoyens qui simplement sont partis des groupes de corruption et qui donc ont des raisons de revanche ou de vengeance, etc. Et donc, évidemment, l'action citoyenne maintenant est fondamentale parce que sinon la majorité des cas seraient fermés. La différence par rapport à avant, c'est que les cas de corruption, le système juridique très facilement les fermait sans aucun résultat. La pression actuelle de la société civile et des groupes organisés, surtout comme le nôtre, font que la présence citoyenne, de la vigilance citoyenne, empêche que ces cas se ferment sans aucun résultat. Je veux ajouter une chose. Quand je parle de l'action de la société civile en Espagne, en aucun cas je ne parle de Podemos. Je crois que Podemos fait tout le contraire et essaye de renvoyer les gens à la maison. Par contre, les Indignados, nous avons créé des plateformes citoyennes actives contre la corruption qui sont réellement efficaces.
Vous êtes à l'écoute des chroniques de Jacques Sapir, une émission de Spoutnik France. La crise politique actuelle en Espagne se traduira très probablement par de nouvelles élections en mai prochain. Le Parti populaire et Ciudadanos, qui ont très légèrement progressé dans les sondages, espèrent rassembler les suffrages correspondants à une majorité absolue. Le Parti populaire de M. Mariano Rajoy, en effet, reste le premier parti politique d'Espagne et s'arroge volontiers le mérite de la fameuse reprise économique espagnole. Le discours de la reprise économique espagnole, comme nous le verrons en deuxième partie, n'est pas sans rappeler la légende du miracle économique espagnol, légende qui a été forgée par le gouvernement de M. José María Aznar entre 1996 et 2004. Chères auditrices et chers auditeurs, je vous donne donc rendez-vous ce jeudi pour la déconstruction d'un certain nombre de mythes concernant l'économie espagnole en deuxième partie de notre émission « Crise politique espagnole ». Va-t-on mettre en échec le bipartisme ? Je remercie Mourad Azri au montage et à l'habillage, Clément Détry à la rédaction et Marc-Laurent Turpin à la réalisation. À très bientôt sur Spoutnik France.
Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.